Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, les Chemins de la philosophie vous proposent de redécouvrir une série d'émissions sur les méditations métaphysiques de René Descartes. Quatrième temps aujourd'hui, comment distinguer mon esprit de mon corps, en compagnie du philosophe Pierre Guénantia.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Quoi de mieux pour commencer la journée que Billie Holiday qui s'offre à vous, body and soul, corps et âme, quand elle pourrait choisir de ne s'abandonner que par le corps ou de ne vous laisser jouir que de son esprit. Et oui, si dans le registre amoureux, la différence entre le corps qui s'abandonne et l'esprit qui consent est parfois peu claire, c'est que la séparation n'est pas si nette. À tel point que de cette distinction entre l'âme et le corps de l'homme, Descartes fait l'objet d'une méditation, la sixième de ses méditations métaphysiques. Bonjour Pierre Guénantia.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes professeur de philosophie moderne à l'Université de Bourgogne, auteur de plusieurs ouvrages sur Descartes qui vous accompagnent depuis bien longtemps, et notamment d'un livre sur Descartes et l'ordre politique, qui est un thème peu exploré. Alors quand Descartes parle de la distinction entre le corps et l'âme de l'homme, ça s'applique aussi à la femme, non ?
Ah, on commence par une provocation.
Une question.
Oui, ça s'applique aussi à la femme, et surtout pour Descartes. C'est sans doute le philosophe de cette époque qui a le plus considéré l'égalité, et même plus d'ailleurs, de la femme et de l'homme.
Alors c'est vous qui allez nous guider au cours de cette sixième méditation métaphysique. Pour mémoire, les méditations métaphysiques de Descartes ont été publiées en latin en 1641. Elles correspondent à six journées d'introspection au cours desquelles Descartes cherche à détruire ses certitudes pour mieux fonder le savoir sur un socle stable. Depuis lundi, nous suivons Descartes dans son enquête. Nous l'avons vu mettre en doute l'existence de son corps, la différence entre le rêve et la réalité, puis l'existence des choses matérielles en général, celle du monde, tout simplement, pour finalement parvenir à s'ancrer sur une vérité indubitable. Quand je dis « je suis », si je peux le dire, c'est donc bien que j'existe. Je suis, j'existe. Mais pour garantir cette vérité, il lui a quand même fallu prouver l'existence de Dieu, ça c'est ce qu'on a fait hier. Si bien qu'après avoir plongé très profond dans les eaux tourmentées du doute, nous voici en train de sortir la tête hors de l'eau et d'apercevoir que l'itinéraire parcouru était en fait une boucle, puisque nous voici revenus, Pierre Guénantia, au point de départ, à savoir la possibilité de prouver l'existence des choses matérielles, y compris celle de mon corps.
Une boucle, c'est ça, parce que c'est un peu curieux que la sixième méditation, le titre de cette sixième méditation, c'est la distinction réelle de l'âme et du corps et l'existence des choses matérielles. Et on peut considérer que c'est paradoxal parce que on attend plutôt, et c'est d'ailleurs le cas, une preuve de l'union de l'âme et du corps. Seulement, c'est ça qui caractérise justement l'ordre analytique de Descartes, c'est qu'il a absolument besoin de cette distinction pour prouver l'union. Donc il va revenir sur la distinction, il va même la renforcer, la clarifier s'il se peut, car elle est déjà très claire, afin justement de montrer que l'homme, c'est justement pas ça. C'est-à-dire, c'est pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre, mais quelque chose qui forme une unité par soi et qui ne peut pas se réduire à la somme ou à l'addition justement de ces deux notions que l'on a distinguées parce qu'elles ressortissent à deux substances radicalement opposées. C'est ça qu'il faut bien voir, et c'est pour ça que la sixième méditation a l'air de faire un retour au fond sur les premières, le doute et surtout la deuxième, c'est-à-dire que l'esprit est plus connu que le corps. Mais ce retour, c'est aussi un approfondissement et c'est aussi le début de la conclusion. La sixième méditation, c'est une très longue conclusion des cinq premières méditations.
C'est la plus longue de
c'est
loin,
la plus
sans
longue.
Doute la plus compliquée, mais
c'est
aussi
la plus
belle.
Compliquée. Et la plus belle, à mon avis, oui, parce que d'une certaine manière, on a le sentiment que Descartes passe de la très haute métaphysique spéculative, coupée du monde, coupée des autres, coupée de tout, à l'existence des hommes, au monde humain et à la réalité humaine dans ce qu'elle a de plus sensible, de plus empirique d'une certaine manière, et à la réalité humaine, je dirais, dans ce qu'elle a de plus humain. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus humain que le sentir, que la douleur, que le plaisir, et aussi que la santé. En un sens, cette sixième méditation finit sur des questions anthropologiques, finit sur des questions de l'existence de l'homme, en partant de la métaphysique. Et je crois que c'est ça le sens de la métaphysique cartésienne, c'est de servir de fondement à des disciplines qui sont beaucoup plus liées à l'existence concrète de l'homme et au monde dans lequel il vit.
Comme si la métaphysique n'était qu'un détour nécessaire pour mieux penser l'homme dans son existence, disons même ordinaire.
Absolument. Un détour et une étape. Il se trouve que cette étape est pour Descartes la première. C'est-à-dire que la métaphysique, c'est ça qui fonde. Il faut avoir des idées claires. Il faut être certain de ce que l'on pense pour pouvoir justement bâtir là-dessus des sciences qui sont plus régionales, plus délimitées et qui s'occupent d'une partie de ce que la métaphysique considère de façon beaucoup plus générale, de façon beaucoup plus globale. Mais ce qui est important, c'est que la métaphysique chez Descartes ne sépare pas l'homme en un sens de lui-même, ne sépare pas l'esprit du reste du monde, mais justement, précisément parce qu'elle opère par des distinctions, parvient à penser l'union d'une façon justement qui est aussi claire et distincte que la distinction.
Et c'est une distinction qui ouvre le début de cette méditation sixième, la distinction entre l'imagination et la conception. On va entendre un extrait de ce texte, peut-être quelques mots avant pour nous dire à quoi il faut faire attention en écoutant ce texte. C'est l'exemple du chiliogone. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un chiliogone,
Pierre Rénancien ? C'est une figure à mille côtés, selon l'étymologie grecque, hein, chilios, c'est le mille, une figure à mille côtés dont évidemment personne ne peut se représenter, ne peut avoir la figure dans l'esprit d'une figure à mille côtés. Un triangle, ça va encore, un pentagone, cinq côtés, ça va, mais au-delà... On a du mal. Alors, ça, c'est les limites de l'imagination.
Quand je considère attentivement ce que c'est que l'imagination, je trouve qu'elle n'est autre chose qu'une certaine application de la faculté qui connaît au corps qui lui est intimement présent et, partant, qui existe. Et pour rendre cela très manifeste, je remarque premièrement la différence qui est entre l'imagination et la pure intellection ou conception. Par exemple, lorsque j'imagine un triangle, je ne le conçois pas seulement comme une figure composée et comprise de trois lignes, mais outre cela, je considère ces trois lignes comme présentes par la force et l'application intérieure de mon esprit. Et c'est proprement ce que j'appelle imaginer. Que si je veux penser à un chiliogone, je conçois bien à la vérité que c'est une figure composée de mille côtés, aussi facilement que je conçois qu'un triangle est une figure composée de trois côtés seulement. Mais je ne puis pas imaginer les mille côtés d'un chiliogone comme je fais les trois d'un triangle, ni, pour ainsi dire, les regarder comme présents avec les yeux de mon esprit. Et quoique suivant la coutume que j'ai de me servir toujours de mon imagination lorsque je pense aux choses corporelles, il arrive qu'en concevant un chiliogone, je me représente confusément quelques figures. Toutefois, il est très évident que cette figure n'est point un chiliogone, puisqu'elle ne diffère nullement de celle que je me représenterais si je pensais à un myriogone ou à quelque autre figure de beaucoup de côtés. Et qu'elle ne sert en aucune façon à découvrir les propriétés qui font la différence du chiliogone d'avec les autres polygones. Ainsi, je connais clairement que j'ai besoin d'une particulière contention d'esprit pour imaginer, de laquelle je ne me sers point pour concevoir, et cette particulière contention d'esprit montre évidemment la différence qui est entre l'imagination et l'intellection ou conception pure.
Thank you. Alors je laisse à l'auditeur le temps d'essayer d'imaginer un chiliogone et de voir que c'est impossible. On peut définir par l'entendement ce qu'est un chiliogone, mais on ne peut se représenter l'image de ce chiliogone. En quoi est-ce que cette distinction entre l'imagination et la conception et l'entendement est nécessaire à Descartes pour prouver la différence entre l'âme et le corps, Pierre Guédancien ?
Pour prouver la différence et surtout pour commencer à prouver leur union, c'est-à-dire le fait que l'esprit n'est pas seul. Et on sent cette présence du corps dans l'acte d'imaginer. Alors ça suffit pas pour prouver qu'il y a des corps, mais c'est un indice. L'imagination, dans la mesure où elle demande une particulière contention d'esprit, dans la mesure où elle demande à l'esprit de se représenter comme présent une image ou une figure, une chose, n'a pas le caractère très très libre et très distant de l'entendement qui ne fait que concevoir. Concevoir, au fond, ça veut dire quoi ? Il ne faut pas penser à des étendues intelligibles, à la Malebranche et des choses comme ça. Concevoir, ça veut dire comprendre la signification d'un mot. Je comprends la signification du mot chiliogone ou chiliogone, je comprends la signification du mot pentagone, je comprends la signification du mot Dieu ou du mot âme. Si je veux me faire une image de ces choses-là, il y a des choses qui ne tomberont jamais sous une image. Je ne peux pas faire une image de l'âme, je ne peux pas me faire une image de Dieu. En revanche, je peux me faire une image du triangle. Mais quand je me fais une image du triangle, je sens que mon esprit, d'une certaine manière, n'est pas seul, parce qu'il s'efforce de se donner, en quelque sorte, c'est un effort, il s'efforce de se donner l'équivalent visible, ou quasi visible, comme dans l'imagination, d'une idée ou d'un concept. Eh bien, cette sorte de transcription du concept dans l'image ou dans la figure témoigne justement de la présence d'une autre réalité que la réalité de mon esprit, qui n'a au fond besoin que d'idées et que de lui-même pour se connaître et connaître les choses. L'esprit ne connaît les choses d'une certaine manière qu'à distance. Descartes fait une comparaison avec les anges. Les anges sont comme ça sans doute. Enfin, bon, il n'en a pas une grande expérience, mais comme saint Thomas, dit-il, ironiquement. Mais il pense que, voilà, si les anges connaissaient, ou s'il y avait des anges, ils connaîtraient les choses à distance. Ils connaîtraient les choses seulement par leurs idées. Hein, et non pas, justement, ils n'éprouveraient pas cette contention d'esprit qui est particulière à l'homme, parce que justement, l'homme, et on s'en aperçoit dans le début de cette méditation, finalement, n'est pas qu'un esprit, n'est pas qu'un entendement, mais il y a quelque chose de plus, d'une certaine manière, que l'entendement dans l'homme. Donc il faut bien comprendre ça, l'imagination, c'est pas un moins dans l'homme, c'est un plus. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait signe vers une réalité qui, avec celle de l'esprit, va composer justement un véritable tout, comme on va le voir par la suite.
Et pourtant, comme elle est issue des sens, comme l'imagination et le lien qui m'unit au sensible, elle est aussi source d'erreurs. En termes de connaissances, l'imagination peut être un obstacle.
Oui, elle est source d'erreurs, les sens, puisque après l'imagination, Descartes va parler des sens, du sentir, et c'est encore plus important que l'imagination, parce que le sentir, c'est encore, c'est un effort ou c'est une présence qui est encore plus contraignante et plus forte que simplement l'idée ou même la figure de l'imagination.
Comparer. Alors pourquoi c'est un plus du coup ?
Parce qu'elle indique que l'homme n'a pas qu'un entendement. Il ne se sert pas que de la conception. Il se sert aussi d'une autre faculté, qui est évidemment la même mais appliquée au corps, d'une autre faculté qu'on appelle l'imagination. Et enfin, troisième temps, la sensibilité, on dirait pour aller vite, les sens, c'est-à-dire finalement quelque chose qui rapproche encore plus un donné de l'esprit. La douleur, c'est pas comme une figure. La douleur, je peux pas la concevoir. C'est pas simplement une contention d'esprit, la douleur. C'est vraiment une modification de mon corps. Et de mon âme, d'ailleurs, aussi. D'où, d'ailleurs, l'union de l'âme et du corps qui ne peut pas être mieux prouvée que par cette faculté de sentir, parce que cette faculté lie, en un sens, à la fois la présence de l'esprit, je ne peux pas sentir sans sentir que je sens, hein, sans savoir que je sens, et la présence d'une réalité distincte qui est justement le corps et qui est les autres corps qui affectent mon corps. Dans cette relation justement de présence de choses qui ne sont pas moi, moi au sens de mon âme, mon esprit, mais qui, et on va le voir, ne sont pas séparables de moi. C'est-à-dire qu'en fait, le moi a deux étages, si je puis dire. Il y a le moi retranché par le doute dans une sorte de bastion depuis lequel il voit les choses, mais toujours à distance,
sans jamais participer à leur existence. Et il y a le vrai moi, si je puis dire, c'est-à-dire le moi corps et âme, le moi union de l'homme, d'une certaine manière, qui lui, justement, sent du plaisir, éprouve de la douleur, conçoit la figure des choses. Bref, un homme réel dans un monde réel. Et c'est ça que la sixième méditation a pour charge, justement, de fonder, de montrer, après, et ça peut sembler complètement contradictoire, après avoir justement ruiné toute cette croyance que nous sommes des hommes réels et qu'il y a un monde réel. Chose dont personne ne doute, dit négligemment Descartes à la fin des méditations. Alors on se demande, mais alors pourquoi on en a douté? Ben, pour recomposer selon l'ordre dû ses connaissances. C'est ça qui intéresse Descartes. C'est pas tant l'existence que la connaissance par ordre des notions qui composent mon esprit et par conséquent la connaissance que mon esprit peut avoir des autres choses.
Mais la connaissance que mon esprit peut avoir des autres choses n'a pas besoin de l'imagination pour être. Et c'est en ce sens qu'il est difficile de ne pas voir le caractère soit d'obstacle, soit même peut-être duplice de l'imagination, qui est à la fois du côté de l'esprit et en même temps du côté des sens et de l'étendue.
Ah, vous êtes mal branché sous spinoziste. Hein.
Ah, si vous le dites, c'est un problème.
Mais pas cartésien.
C'est grave, docteur.
C'est-à-dire que finalement, l'imagination, vous la concevez toujours, et c'est une vieille tradition philosophique, un peu comme une dégradation de la connaissance ou comme une sorte de précipité sensible.
Descartes ne loue pas ses qualités pour autant.
Ah, eh bien, détrompez-vous.
Alors, dites-moi.
Détrompez-vous, parce que les règles pour la direction de l'esprit sont, d'une certaine manière, qui est un texte antérieur aux méditations et dans lequel est un texte inachevé, mais sont d'une certaine manière une mise en œuvre de l'imagination comme on l'a rarement faite. C'est-à-dire que en écoutant Descartes dans Les Régulés, on voit que c'est l'ingenium, c'est pas la mince des méditations, l'esprit au sens différent du corps. L'ingenium, c'est-à-dire celui qui invente. Voilà. Et au fond, Descartes est un mathématicien. Et il n'y a pas de mathématiques sans imagination. Il y a même un régal de l'imagination par les mathématiciens. C'est pour ça que chez Descartes, l'imagination, notamment dans Les Régulés, est une faculté quasi inventive.
Il décrit quand même « Cette vertu d'imaginer qui est en moi, en tant qu'elle diffère de la puissance de concevoir, n'est en aucune sorte nécessaire à ma nature ou à mon essence, c'est-à-dire à l'essence de mon esprit, car encore que je ne l'eusse point, il est sans doute que je demeurerai toujours le même que je suis maintenant. »
Oui, bien sûr, à l'essence de mon esprit.
Voilà, c'est lui qui l'écrit, l'imagination n'est pas nécessaire
à l'essence de mon esprit. Mais justement, c'est cette réduction, si je puis dire, c'est cette réduction de l'esprit à la conception qui va permettre de comprendre que l'imagination et les sens sont, pour ainsi dire, un pont jeté du côté du corps et du monde, mais ou plus, moins métaphoriquement, sont la preuve, justement, que l'esprit, qui est une chose qui pense, est lié à une autre chose qui n'est pas une chose qui pense, mais qui est une chose étendue, mais avec laquelle il forme un seul tout, et à ce moment-là, pensée et étendue ne jouent plus séparément, mais jouent toujours ensemble. Autrement dit, quand j'éprouve de la douleur dans mon corps, dans ma chair, hein, comme on dit, c'est mon esprit qui sent la douleur. C'est pas mon corps qui sent la douleur. Le corps ne sent rien en tant que tel. Et mon esprit ne sentirait pas la douleur s'il n'avait pas un corps. Et le corps n'aurait pas conscience de la douleur s'il n'y avait pas un esprit. Voilà l'union de l'âme et du corps.
Il nous faut avancer, donc, puisque finalement c'est cela l'enjeu, hein, l'union de l'âme et du corps. On a vu la distinction entre l'entendement et l'imagination qui permettait de poser les jalons pour parvenir à cette union. Écoutez, un peu plus loin dans le texte de la sixième méditation, la façon dont Descartes part de ses sentiments de douleur, de faim, de soif, pour prouver cette union de l'âme et du corps qui, dit-il, se vit plus qu'elle ne se conçoit. Mmh.
La nature m'enseigne par ses sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., que je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. Car si cela n'était lorsque mon corps est blessé, je ne sentirai pas pour cela de la douleur, moi qui ne suis qu'une chose qui pense, mais j'apercevrai cette blessure par le seul entendement comme un pilote aperçoit par la vue si quelque chose se rompt dans son vaisseau. Et lorsque mon corps a besoin de boire ou de manger, je connaîtrai simplement cela même sans en être averti par des sentiments confus de faim et de soif. Car en effet, tous ces sentiments de faim, de soif, de douleur, etc., ne sont autre chose que de certaines façons confuses de penser qui proviennent et dépendent de l'union et comme du mélange de l'esprit avec le corps.
Ces pas qui courent sont ceux du corps qui part à la recherche de l'esprit sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h20 et nous sommes dans le dernier temps de notre série consacrée aux méditations métaphysiques de Descartes, la sixième méditation, aujourd'hui en compagnie du philosophe Pierre Guénantien qui vient de nous expliquer la différence entre l'imagination et l'entendement chez Descartes. Et le texte qu'on vient d'entendre parle donc de cette confusion, hein, je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui, entre l'esprit et le corps donc. Mais disons-le tout de suite, l'union n'est pas l'unité, c'est pas la même chose, Pierre Guénantien.
Oui. L'union n'est pas l'unité au sens où l'union ne fait pas disparaître les notions évidemment de l'âme et du corps. Mais d'une autre manière, l'union est presque plus que l'unité parce que d'une certaine manière, la véritable union ne permet pas de penser de penser en termes de partie ou en termes de région de l'être ou en termes non l'union. Comme il le dit quelques années, très peu d'années d'ailleurs, 2 ans plus tard, en 43, à la princesse Élisabeth, qui s'interrogera et qui l'interrogera de façon très très pressante sur ces
avec
questions.
Avec qui il a une grande correspondance.
Ah, une grande correspondance laquelle... qui commence avec la question de l'union et de la distinction.
Voilà, il précise toute cette
question. Voilà, et il lui dit que l'union, c'est une troisième notion primitive, c'est-à-dire au fond qui ne se comprend que par elle-même, comme l'âme. Comme le corps sont des notions primitives, l'union de l'âme et du corps est une troisième notion. Autrement dit, on ne peut pas comprendre l'union de l'âme et du corps en additionnant la notion de l'âme et la notion du corps. Il faut changer de régime théorique. Il faut penser à nouveau frais, c'est-à-dire il faut penser originairement. Nous avons, pour Descartes, une notion particulière pour penser l'union de l'âme et du corps, c'est par exemple les mouvements volontaires, c'est par exemple la douleur ou le plaisir, et ce sont des choses qui se comprennent par l'expérience bien plus que par l'entendement. Vous voyez, un entendement, encore une fois, n'éprouverait pas la douleur. Il verrait la défectuosité de quelque chose, hein, comme le navire avec le pilote. Hein, il verrait sur son écran aujourd'hui que quelque chose ne va pas dans le navire. Il se dirait, tiens, je suis mal parti parce que l'équipage va... Bon. Mais il ne ressentirait pas dans sa chair et immédiatement l'avarie du bateau. Il constaterait, d'une certaine manière, un fait objectif et en dehors de lui. Voilà l'entendement. L'entendement, c'est ce qui regarde les choses comme si elles étaient toujours en dehors de lui. Alors que l'homme, qui a un esprit uni avec un corps, certes, continue de connaître les choses d'une façon objective et même scientifique, rationnelle, mais par ailleurs, il éprouve... et notamment dans sa vie concrète, dans les passions, dans les perceptions sensibles, il éprouve justement cette intimité, cette proximité, cette indissociabilité entre justement les corps, son propre corps plus particulièrement, et son esprit. Mais tout cela, c'est une seule notion. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et alors pourquoi est-ce important de le comprendre ? Peut-être un point de précision ici qui peut aussi nous permettre de comprendre pourquoi tout à l'heure vous disiez mais vous êtes spinoziste comme si c'était un problème. Parce que, revenons en amont, ouais. Descartes, l'idée que l'on se fait de Descartes, on lui associe le terme de dualiste, à savoir qu'il y a le corps d'un côté, l'âme de l'autre. Ouais. Et que par conséquent, chez Descartes, on aurait une espèce d'esprit qui serait abstrait de toute forme d'incarnation. Ouais. Et le corps qui est toujours un peu gênant, c'est un obstacle, c'est la chair sensible, c'est les qui nous trompe. Et ce dualisme-là, en philosophie, a été souvent critiqué, on a essayé de le surmonter. Chez Spinoza, c'est l'inverse, il y a une espèce de monisme, c'est-à-dire au contraire, il n'y a pas de dissociation entre le corps et l'esprit. Et donc, en insistant sur cette union entre le corps et l'esprit, en montrant que chez Descartes, il y a cette union, qu'elle est aussi évidente que la substance, enfin le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, c'est une manière pour vous, Pierre Guénantien, le cartésien que vous êtes, de montrer que qu'il ne faut pas céder aux idées reçues sur Descartes
bien
et que
sûr,
lui-même pense avant tout cette union,
mais
peut-être comme un problème et comme un fait évident.
Bien sûr, comme un fait évident.
C'est pour ça que cette sixième méditation est si importante.
C'est même un fait qui ne pose pas de problème, parce que c'est un fait justement, parce que c'est une expérience certaine, on l'éprouve tous les jours. Hein. Et donc Descartes n'éprouve pas le besoin d'égaler, pour ainsi dire, conceptuellement l'union de l'âme et du corps par rapport à l'idée d'esprit ou à l'idée de corps. Vous dites dualisme cartésien. Oui, c'est un dualisme épistémologique, c'est un dualisme aussi ontologique, bien sûr, c'est-à-dire l'âme et le corps ne sont pas connus par des idées semblables, au contraire, par des idées tout à fait distinctes. L'âme pense, le corps est étendu. C'est ça le dualisme. Hein. Mais justement, ce sont ces deux idées distinctes qui vont permettre de comprendre comment l'homme
et l'union de deux natures distinctes, mais l'union de deux natures distinctes, et non pas la juxtaposition de deux natures distinctes ou la contrariété entre deux natures distinctes. Regardez Pascal, regardez Malebranche. Au fond, l'union de l'âme et du corps chez eux n'est pas une véritable union, c'est un conflit, c'est une contrariété, tous les passages de Pascal sur la contrariété, y compris chez Malebranche. L'union donnera beaucoup de mal au post-cartésien, justement, alors que chez Descartes, c'est quelque chose non seulement qui passe tout seul, mais c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans sa philosophie. Tout tend à ça, enfin le discours de la méthode le disait, ce qui est important c'est l'usage que l'homme fait dans sa vie de ses connaissances, ce qui est important c'est la santé, ce qui est important c'est la sagesse, ce qui est important c'est la vie d'une certaine manière humaine dans sa finitude, mais aussi dans sa spécificité. Vous voyez, il n'y a pas chez Descartes, comment dire, il n'y a pas de conception fantastique, si je puis dire, de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit qui est d'un côté dans le monde intelligible, le corps qui se balade d'un autre. Il n'y a pas ces idées complètement chimériques.
Même s'il évoque les fantômes à la fin de la méditation.
Oui, il évoque les fantômes, mais il y a cette idée, que, bien sûr, mais au fond, le fondement de la philosophie cartésienne, c'est la vie réelle de l'homme, telle que l'homme du commun, vous et moi, excusez-moi de parler d'homme pour une femme, hein, j'en suis vraiment très...
Vous parlez d'être humain.
Être humain, voilà. Voilà, c'est tel qu'on le comprend, c'est ça la philosophie de Descartes. C'est pas quelque chose d'extravagant sur le plan spéculatif. C'est vraiment, mais seulement pour comprendre cette vie réelle avec des vrais concepts et pas des notions confuse, il faut faire, selon Descartes, tout le chemin qu'il a fait jusqu'à cette méditation. Et c'est pour ça qu'on est en plein cœur de difficultés. Et c'est très long. Descartes distingue, analyse pendant des pages et des pages la question de l'union de l'âme et du corps dans la sixième méditation. Parce que justement cette jonction, si je puis dire, entre deux natures différentes doit se faire d'une façon très progressive, d'une façon très compréhensive, afin justement de montrer que cette jonction, c'est pas justement deux choses qu'on superpose l'une sur l'autre, mais que ce sont deux choses que l'on a distinguées afin de mieux voir en quoi et pourquoi et comment elles vont s'unir.
Je vais pas vous faciliter la tâche, hein. Ce serait trop aisé. Puis nous reste un petit peu de temps, donc autant s'amuser à affronter les difficultés soulevées par Descartes. C'est Descartes qui prend la comparaison du corps avec une horloge, qui semble reléguer le corps à une forme de machine et donc aller dans le sens d'un dualisme qui réduirait le corps à un être à une forme d'étendue dont on se passerait bien. En réalité, écoutez le texte. C'est aussi dans ce texte qu'il prend l'exemple de l'hydropique.
Bien sûr.
Celui qui souffre d'une maladie qui lui donne soif en permanence et qui boit tellement qu'il se nuit à lui-même et qu'il ne peut pas s'arrêter de boire. Et écoutez aussi ce texte qui a la particularité d'avoir une des phrases les plus longues qui soit au sein de cette méditation, de ces méditations peut-être. C'est le moment où Descartes se prend pour Marcel Proust. Écoutez.
Comme une horloge composée de roues et de contrepoids n'observe pas moins exactement toutes les lois de la nature lorsqu'elle est mal faite et qu'elle ne montre pas bien les heures que lorsqu'elle satisfait entièrement au désir de l'ouvrier, de même aussi, si je considère le corps de l'homme comme étant une machine tellement bâtie et composée d'eau, de nerfs, de muscles, de veines, de sang et de peau, qu'encore bien qu'il n'eût en lui aucun esprit, il ne laisserait pas de se mouvoir en toutes les mêmes façons qu'il fait à présent, lorsqu'il ne se meut point par la direction de sa volonté, ni, par conséquent, par l'aide de l'esprit, mais seulement par la disposition de ses organes. Je reconnais facilement qu'il serait aussi naturel à ce corps, étant par exemple hydropique, de souffrir la sécheresse du gosier qui a coutume de signifier à l'esprit le sentiment de la soif, et d'être disposé par cette sécheresse à mouvoir ses nerfs et ses autres parties en la façon qui est requise pour boire et ainsi d'augmenter son mal et se nuire à soi-même, qu'il lui est naturel, lorsqu'il n'a aucune indisposition, d'être porté à boire pour son utilité par une semblable sécheresse du gosier. Et quoique, regardant à l'usage auquel l'horloge a été destinée par son ouvrier, je puisse dire qu'elle se détourne de sa nature lorsqu'elle ne marque pas bien les heures, et qu'en même façon, considérant la machine du corps humain comme ayant été formée de Dieu pour avoir en soi tous les mouvements qui ont coutume d'y être, j'ai sujet de penser qu'elle ne suit pas l'ordre de sa nature quand son gosier est sec et que le boire nuit à sa conservation. Je reconnais toutefois que cette dernière façon d'expliquer la nature est beaucoup différente de l'autre. Car celle-ci n'est autre chose qu'une simple dénomination, laquelle dépend entièrement de ma pensée, qui compare un homme malade et une horloge mal faite avec l'idée que j'ai d'un homme sain et d'une horloge bien faite, et laquelle ne signifie rien qui se retrouve en la chose dont elle se dit, au lieu que, par l'autre façon d'expliquer la nature, j'entends quelque chose qui se rencontre véritablement dans les choses et partant qui n'est point sans quelque vérité.
Peut-on comprendre ce texte, Pierre Guenancia, comme autre chose qu'un texte exprimant le mécanisme cartésien? Savoir qu'il s'intéresse au corps humain comme à une horloge, comme fonctionnant selon un mécanisme.
Bien sûr qu'on peut le comprendre autrement, mais il faut d'abord le comprendre. Mais le mécanisme, c'est pas une vilaine chose, hein, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Le mécanisme, pour ce qu'on appelle le mécanisme, Descartes n'appelle pas les choses comme ça, ce qu'on appelle le mécanisme est une étape absolument nécessaire pour comprendre justement comment le corps fonctionne. Il faut faire un tout petit rappel. Au fond, dans la tradition scolastique issue d'Aristote, l'union de l'âme et du corps est première. L'âme et le corps sont des notions abstraites, en un sens. Hein, seul et réel, l'union de l'âme et du corps. Ça veut dire que le corps, au fond, dans cette perspective, il est animé. Hein, comme on dit, c'est-à-dire que, au fond, il y a des facultés à l'intérieur du corps, la faculté digestive, la faculté motrice, qui sont, dit Descartes en s'en moquant, comme des petites âmes. C'est-à-dire qu'au fond, on a pensé le corps comme on pense notre corps, c'est-à-dire le corps humain. Et on a pensé tous les corps sur le modèle du corps humain. Alors que pour Descartes, il faut faire justement un effort d'abstraction afin de séparer la notion du corps du vécu corporel que nous avons de notre corps et essayer de comprendre le corps en extériorité, comme si c'était justement une machine, une horloge. C'est les seuls.
Comme si, c'est important.
Il n'a pas dit que c'était une machine. Il a dit qu'en le comparant avec une machine, et c'est là où on voit le rôle très important de l'imagination, il faut justement pouvoir imaginer le corps comme une machine afin justement de pouvoir se débarrasser de l'idée qu'il faut des petites âmes dans le corps pour le faire marcher. Non, l'idée fondamentale du cartésianisme sur ce plan-là, c'est que le corps est un automate et que les fonctions corporelles sont pour la plupart des fonctions automatiques. Par conséquent, le corps n'a pas besoin d'âme pour fonctionner. Il fonctionne tout seul, comme une horloge n'a pas besoin de quelqu'un qui soit à l'intérieur pour montrer les heures par elle-même. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui avec nos instruments, hein ? Bon, ce serait c'est le triomphe du cartésianisme d'une certaine manière. Mais bon, passons. Mais voilà ce qu'il veut dire. Et par conséquent, ce corps extérieur, ce corps vu en extériorité, ce corps qui est comparable à une machine, c'est comme le corps que l'anatomiste dissèque. Et vous avez remarqué en lisant cette très longue phrase comment justement Descartes détaille la composition du corps. C'est très curieux, il détaille jamais la composition de l'âme. Le corps, c'est une sorte de, comme dirait Leibniz, de machine de machine. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, et c'est toujours différencié. Il y a telle fibre, tel muscle, tel os, tel tendon, tel truc, etc. Autrement dit, le corps est une unité de composition. Ce que n'est absolument pas l'âme. L'âme est une unité par elle-même. Que je sente l'odeur d'une fleur ou que je pense à la résolution d'une équation, c'est la même âme qui sent et qui pense. Il n'y a pas de faculté hiérarchiquement disposée chez Descartes.
Parce qu'il n'y a pas d'étendue, par définition.
Parce qu'il n'y a pas d'étendue. D'où l'intérêt du dualisme. C'est justement de recentrer l'âme sur l'acte de pensée. Et de faire que cet acte de pensée n'est pas un acte fantastique. Il ne s'agit pas de penser aux anges, aux âmes pures et à Dieu. Il s'agit justement de penser à l'odeur d'une fleur, ou à la saveur d'un mets, ou à une équation mathématique, ou à un problème philosophique. C'est toujours la même âme qui pense. L'âme est la même, c'est même sa caractéristique, c'est même ça, au fond, sa seule nature. Sa nature, c'est d'être la même.
Et ça, on peut le prouver ? Descartes peut-il le prouver ?
On peut le prouver en l'éprouvant.
Cette identité de l'âme, voilà. Ouais, donc pour prouver l'identité de l'âme, on a besoin de l'expérience du corps.
Bien sûr, de l'expérience de la pensée. Voilà, c'est ce que dit Descartes, qui lui conteste le cogito. Il dit, mais vous faites quoi quand vous contestez le cogito ? Vous pensez ? Bon, c'est tout, je n'ai pas dit autre chose. Penser, c'est pas une activité, encore une fois, magique. Hein, c'est une activité quotidienne. Simplement, la plupart du temps, on ne se rend pas compte de la présence de cette pensée parce que nous sommes pensés, d'une certaine manière. Nous sommes pensés. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de corps. Et ça veut pas dire qu'on ne... Non, mais ça veut dire que pour sentir, pour imaginer, pour se remémorer, pour anticiper, il faut penser. C'est ça la pensée. c'est au fond se rapporter à quelque chose sur le mode d'une intention, ou comme on dira plus tard, d'une intentionnalité.
Il y a un autre problème qui est soulevé par ce texte, qui est le suivant. Au début de la sixième méditation, nous étions plutôt bien partis, parce que Descartes avait pu montrer auparavant non seulement l'existence de Dieu, mais l'existence d'un Dieu, disons, qui serait bon. Il a écarté l'hypothèse d'un malin génie qui me tromperait dans toutes mes perceptions et mes conceptions. Nous pouvons nous assurer d'un socle stable qui est le point de départ de la connaissance et qui fait que je peux accorder du crédit justement à ce que je conçois, mais aussi à ce que je perçois. Or, dans l'exemple de l'hydropique, on a l'impression que c'est comme un défi adressé à Dieu, puisque si l'hypothèse, disons, du Dieu trompeur a été écartée, comment l'hydropique est-il possible, malgré la bonté de Dieu? Comment Dieu bon a-t-il pu autoriser une maladie telle qu'elle fasse autant souffrir l'homme?
C'est un problème considérable. C'est vraiment un problème très difficile. Je m'en suis beaucoup occupé, je suis pas certain d'avoir acquis la science nécessaire de cet exemple. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est effectivement pourquoi cet exemple est topique d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que justement, Descartes analyse le corps comme une machine, et ce qui veut nous dire, ou l'horloge comme une machine. Prenons l'exemple de l'horloge, une horloge qui marque mal les heures. Au fond, si on se place du point de vue de l'horloge, si on peut dire, au fond, il est absolument indifférent à une horloge de marquer mal les heures, de donner une mauvaise heure ou de donner une bonne heure. Elle s'en fiche, l'horloge, au fond. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de conscience et elle n'a pas de finalité. Voilà ce que veut montrer Descartes, c'est que le corps en tant que corps pur n'a pas de finalité. Il marche comme une machine. Une machine, ça s'arrête, ça se répare ou ça marche, mais ça marche pas pour quelque chose. Ça marche pour quelque chose quand un homme s'en sert. Et l'horloge marque mal les heures pour celui qui veut voir l'heure. Mais pas pour l'horloge elle-même. C'est ça qu'il veut montrer. Et donc, transposons au corps. Le corps en lui-même ne peut pas être dit défectueux. Le corps, dès lors qu'il marche comme une machine, il marche, il ne marche pas, ou il est en panne, ou il s'arrête de marcher, c'est ce qu'on appelle la mort, mais il n'a pas de comment dire, il ne contrevient pas à un sens ou à une finalité. C'est pour ça que le fait que le corps hydropique, précise Descartes, ne peut pas être dit défectueux. Donc pour qui l'hydropique est-il une objection? Pour le corps uni à l'âme, c'est-à-dire que celui qui se rend compte que, tout en étant neutre dans cette histoire, il a rien fait, le pauvre. Eh bien, il a une sorte de maladie qui pousse à faire quelque chose, le pousse en un sens naturellement à faire quelque chose qui lui est nuisible. Mais qui lui est nuisible à lui, utilisateur du corps. Ce qui montre bien que pour Descartes, le corps nous est donné pour être utilisé. C'est-à-dire, au fond, le corps nous est donné pour être bien utilisé, pour être en bonne santé, pour être en bonne forme, si je puis dire. Voilà pourquoi le corps nous est donné. Il ne nous est pas donné pour éprouver le péché ou notre
comme
condition. Comme chez Pascal, comme chez Malebranche, ce corps de mort, dit Malebranche pour le corps. Non, le corps est le lieu de la vie pour Descartes, et de la vie bonne. En ce sens, il retourne à Aristote, mais avec de tout autre concept et une toute autre méthode. Mais ce qui est important ici, c'est de voir que, au fond, ce qu'il appelle une véritable erreur de la nature, et devant laquelle il faut que Dieu s'explique d'une certaine manière pour avoir créé une nature fautive, ce qu'il appelle une véritable erreur de la nature, c'est une véritable erreur pour la nature humaine, c'est-à-dire pour un homme dont le corps est d'une certaine manière sa possession, habeam corpus, dit Descartes justement.
Entre autres.
Nous l'avons, ce corps, il est à nous, c'est par un droit particulier que j'appelle mien. Le corps de l'homme, c'est mon corps. C'est ça la caractéristique du corps. Pas tant, même pas d'ailleurs qu'il est étendu. Parce que l'étendue ici ne compte plus pour rien. Un bras en moins, c'est le même corps. Et c'est le même corps parce que c'est le même moi. Et donc, en ce sens, il n'y a plus aucune différence entre le corps et moi. C'est ça l'incorporation.
Donc, c'est même pas simplement j'ai un corps, ce corps est mien, c'est
non,
je suis un corps.
Je suis un corps, on peut le dire, oui. Moi, je le dirai pas, mais Descartes ne le dit pas d'ailleurs non plus. Ça tombe bien, on est d'accord. On pourrait le dire si on préfère. Je préfère changer d'auxiliaire, dire j'ai un corps et que ce corps est à moi ou que ce corps est moi. plutôt que de dire que je suis un corps, ce qui impliquerait que la pensée, pour ainsi dire, disparaît dans le corps, ou que la pensée est devenue corps. Non, il est plus vraisemblable que le corps devienne pensée chez Descartes que la pensée devienne corps. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, un dernier mot sur l'hydropique, si vous voulez,
ah oui, oui.
Si on a encore un petit peu de temps, parce que c'est un problème très important. Au fond, Descartes pose le problème de ce que Leibniz appellera la théodicée, c'est-à-dire la justice de Dieu. Comment justifier une nature créée par un Dieu bon et qui se trompe? Voilà. Alors, il y a eu la quatrième méditation, à laquelle il a fallu justifier l'erreur, mais là, il n'y avait pas de corps. Donc l'erreur, c'était l'erreur de l'esprit quand il fait quelque chose, quand il voit quelque chose, quand, voilà, je me trompe de perception.
L'erreur qui vient du jugement.
Voilà, une erreur qui vient du jugement. Mais là, en un sens, c'est une erreur qui n'est pas liée au jugement, c'est une erreur directe. C'est pour ça qu'il appelle une erreur de la nature.
Il parle d'erreur,
pas
c'est ça
de
qui
mon esprit. Oui, d'erreur. Il y a, si vous voulez, un peu comme dans certains... Il y a une fausse route, quoi. Voilà,
S'il y avait une nature idéale,
voilà,
et que l'hydropique était une forme de déviation dans cette idée.
Et c'est là où il met en œuvre alors une sorte de théodicée qui va être repris par les cartésiens et notamment par Malebranche, c'est-à-dire il va mettre en œuvre l'idée que Dieu agit par des lois générales et ne peut pas agir par des décrets particuliers. Peut-être que Dieu aimerait bien sauver ce pauvre hydropique, aimerait bien épargner à l'hydropique ses souffrances, mais la manière dont il a construit le corps ne lui permet pas d'agir autrement que généralement. Et donc... comme dans une machine, eh bien, il y a des déficiences, il y a quelquefois des pannes, ça marche pas d'une façon absolument à 100%, hein, ni rendement, ni fonctionnement. Et donc, le fait que Dieu soit l'inventeur de cette machine magnifique qu'est le corps humain, n'empêche pas cette machine d'avoir des déficiences, d'avoir des pannes, d'avoir des contresens, ne montrent rien d'autre que finalement le fait que Dieu agit selon des voies générales, comme dira Malebranche, que Dieu ne crée pas une nature à coup de décret, c'est pas une nature magique, c'est une nature qu'il est rationnellement possible de connaître par des lois, justement, parce que Dieu l'a créée selon des lois. Donc, évidemment, la fin de cette méditation est destinée à disculper Dieu de tout reproche d'imperfection et d'erreur, mais ça veut dire aussi que, par exemple, c'est le cas de l'erreur. L'erreur, c'est vrai, c'est un défaut. Comment dire le contraire? Mais par ailleurs, l'erreur nous montre que si nous nous trompons, c'est parce que nous sommes libres. Donc c'est quand même, au fond, une imperfection qui montre une perfection, c'est-à-dire le libre arbitre. Alors dans le cas de l'hydropique, la perfection, ce serait justement que l'univers est un univers réglé par des lois, et qui est un univers qui est parfaitement compréhensible, qui est parfaitement compréhensible à l'homme, qu'il y a une science physique et plus tard physiologique de l'univers et du corps humain, et que de ce point de vue, on peut être reconnaissant à Dieu de nous avoir donné les idées qui nous permettent de comprendre ce monde.
Et je dois rejeter tous les doutes de ces jours passés comme hyperboliques et ridicules. Et particulièrement cette incertitude si générale touchant le sommeil que je ne pouvais distinguer de la veille. Car à présent, j'y rencontre une très notable différence. En ce que notre mémoire ne peut jamais lier et joindre nos songes les uns aux autres, et avec toute la suite de notre vie, ainsi qu'elle a de coutume de joindre les choses qui nous arrivent étant éveillées. Et en effet, si quelqu'un, lorsque je veille, m'apparaissait tout soudain et disparaissait de même, comme font les images que je vois en dormant, en sorte que je ne puisse remarquer ni d'où il viendrait, ni où il irait, ce ne serait pas sans raison que je l'estimerais un spectre ou un fantôme formé dans mon cerveau et semblable à ceux qui s'y forment quand je dors, plutôt qu'un vrai homme. Mais lorsque j'aperçois des choses dont je connais distinctement et le lieu d'où elles viennent, et celui où elles sont, et le temps auquel elles m'apparaissent, et que sans aucune interruption je puis lier le sentiment que j'en ai avec la suite du reste de ma vie, je suis entièrement assuré que je les aperçois en veillant, et non point dans le sommeil. Car de ce que Dieu n'est point trompeur, il suit nécessairement que je ne suis point en cela trompé. Mais parce que la nécessité des affaires nous oblige souvent à nous déterminer, avant que nous ayons eu le loisir de les examiner si soigneusement, il faut avouer que la vie de l'homme est sujette à faillir fort souvent dans les choses particulières, et enfin, il faut reconnaître l'infirmité et la faiblesse de notre nature. Ce sont les dernières lignes de la méditation sixième, Pierre Guédancia, qui, comme vous le dites, disculpe Dieu et conclut sur cette imperfection, c'est pas le terme qu'il emploie, mais l'infirmité, la faiblesse de notre nature. C'est l'homme qui qui ouvrait les méditations, c'est sur lui que se termine l'homme, l'être humain, qu'est Descartes, en son corps,
absolument,
en son imperfection. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a cette prise en compte de la dimension existentielle, quasiment anthropologique, du narrateur des méditations. Oui. Mais on a aussi dans cette faiblesse l'absence d'une forme de culpabilité qui serait chrétienne. Ce n'est pas un corps pécheur,
ah,
c'est
oui,
un corps
c'est
faible, ce n'est pas la même chose.
Tout à fait, oui. Vous avez tout à fait raison là-dessus, vraiment. Ce qui est intéressant dans ces dernières lignes, enfin, c'est justement le fait que l'homme cartésien, contrairement à, là aussi aux légendes répandues, ne se prend pas pour Dieu, ne peut pas se prendre pour
Dieu.
Voilà,
en tout cas, il revient à l'homme.
Il revient à sa condition d'homme, encore qu'à mon avis, il ne l'a jamais oublié, mais il revient à sa condition d'homme en considérant que cette condition ne peut pas être exempte d'erreurs, d'imperfections, qui sont liées à la finitude. Mais je voudrais finir, s'il vous plaît, sur cette question. C'est vrai que, et on l'a plusieurs fois remarqué, il y a quand même une chose qui est vraiment qui brille par son absence dans ces méditations, c'est quand même le péché originel. C'est quand même, au fond, les grandes idées de la religion chrétienne. C'est une chose que Pascal ne pourra pas pardonner à Descartes. Il parle de Dieu, il parle de l'homme, comme s'il n'y avait pas de religion. Comme
mais il parle du Dieu des philosophes et
s'il
pas du Dieu
pas
des
de
croyants.
Révélation. Oui, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle différence pour lui entre les deux.
Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne.
Si Dieu existe, c'est la question que pose Descartes et Annie Cordy qui termine cette émission. Un grand merci à vous, Pierre Guénancien.
Merci à vous aussi.
D'être venu nous parler de cette sixième méditation, votre préférée, on peut le dire quand même.
Peut-être, oui.
Ouais. Des six méditations, faites votre choix, chers auditeurs, à vous de le lire dorénavant. Méditation métaphysique de Descartes. Donc on trouve que notamment Garnier Flammarion, c'est l'édition avec laquelle on a travaillé cette semaine sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître. Et aujourd'hui, c'est une édition d'un cours de Bergson, c'est ça?
Voilà, ce sont des cours inédits de Bergson au Collège de France qui datent de 1904-1905. Ce sont des cours que met en avant aussi Philosophie Magazine, avec lequel nous sommes en partenariat. Et ces cours de Bergson portent sur l'évolution du problème de la liberté.
Nous nous sommes transportés le 3 juin 1936 à 3h30 chez le philosophe Henri Bergson avec un simple appareil enregistreur portatif Urne et Duprat. Monsieur Bergson nous a prié de noter en préface qu'il nous recevait dans son cabinet de travail où les infirmités de l'âge le confinaient car il allait atteindre 77 ans.
de Bergson, il ne reste qu'une seule archive dans laquelle il parle de l'objet de l'art. Mais pour entendre la voix du philosophe encore, vaut-il mieux découvrir ses cours, là où la pensée se forme, là où les mots se cherchent parfois et les exemples affluent. C'est ainsi le cas de ses cours, restés inédits comme je le disais, que Bergson a prononcé au Collège de France sur l'évolution du problème de la liberté. Alors en 1904, quand Bergson professe ses leçons, il a en fait déjà croisé cette question de la liberté. C'est par exemple le troisième grand chapitre de son premier essai de 1889, l'essai sur les données immédiates de la conscience. C'est en ce début de siècle l'évolution créatrice qu'il rédige alors, mais c'est aussi, et qui s'annonce déjà à travers ses pages, un autre de ses autres textes majeurs, les deux sources de la morale et de la religion. La liberté soit donc une question qui ne lui est pas du tout étrangère. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur cette permanence chez lui. Pourquoi donc la liberté lui a-t-elle tant posé problème? Mais on pourrait aussi se demander plus largement pourquoi donc la liberté a-t-elle toujours posé un problème aux philosophes? Car c'est bien cela que Bergson interroge, cette difficulté pour eux à assumer pleinement une théorie de la liberté et pas seulement ses symptômes, comme il dit. De Socrate à Kant, de l'Antiquité à la modernité, ce qui domine, c'est la croyance à la nécessité et non le contraire. Et c'est là que la liberté pose un véritable problème, pas seulement abstrait, mais quotidien, ordinaire. Pourquoi donc cette préférence pour la nécessité, que ce soit de notre côté, sous la forme logique des sciences, ou aussi sous la forme affective du destin? Volonté, réflexion, sentiment, pourquoi la liberté n'est-elle jamais immédiate pour chacun? Eh bien, c'est le sens de ces cours.
Des cours désormais disponibles aux éditions PUF.
Aux éditions PUF, et ça s'appelle « L'évolution du problème de la liberté ».
Merci Géraldine, un livre donc qu'on trouve notamment commenté dans le dernier Philosophie Magazine qui propose ce mois-ci un dossier sur la gauche, de quoi la gauche est-elle malade, et un cahier central sur Descartes et l'estime de soi. Ça tombe bien à l'issue de cette semaine cartésienne. Merci à Livia Garrigue qui a préparé cette émission, Antoine Ravon, Nicolas Bouteloup, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, c'est l'équipe des Chemins de la Philosophie, Olivier Bétard à la réalisation cette semaine, aidé de Nicolas Berger, de Delphine Lemaire, Jean Guillermège à la prise de son aujourd'hui, Jean-Louis Jacopin à la lecture des textes. Après les méditations métaphysiques de Descartes cette semaine, on se retrouve demain pour une émission sur le peintre Johannes Vermeer dans l'atelier de l'artiste en compagnie de l'historien de l'art Yann Blanc.
Restez à l'écoute sur France Culture.